Nicole Avive, bonjour. Monique Liscoen en votre compagnie pour une page ouverte. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur les ondes de Radio Colavive deux amis, Gilles Presnitzer, bonjour, bonjour Gilles, et Pierre Léoutre.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous recevons ces Gilles Presnitzer et Pierre Léoutre à l'occasion de la publication d'un livre signé par Pierre Léoutre, qui est écrivain bien connu à Toulouse et qui a déjà publié plusieurs ouvrages. Ce livre s'appelle « Chant pour le peuple juif » et il est publié incessamment, il paraît
dans quelques jours,
aux éditions des Deux Encres. Et ce livre chant, au pluriel, chant pour le peuple juif, contient trois parties dont je vais vous parler un peu rapidement, parce que j'ai pas eu encore l'occasion de voir le livre, mais j'en connais un peu le contenu. Ces trois chants sont un chant, Pierre disait tout à l'heure, un chant du désespoir, un deuxième chant qui est un chant des couleurs, et un troisième chant qui est un chant d'espérance, le chant de la terre promise. Alors le premier chant est celui du troubadour Mordechai Gebertich, qui au cœur du ghetto de Cracovie et dans les pires souffrances a fait entendre un chant d'espoir et de lucidité. Alors on peut dire que c'est également un chant qui est au-delà du désespoir. Mordechai Gebertich a écrit des poèmes qui sont ici traduits pour la première fois en français par Gilles Presnitzer, qui va nous en parler. Et ces poèmes éclairent cette histoire moins connue que celle du ghetto de Varsovie. Et il y a également une analyse historique qui est faite par Pierre Léoutre et qui replace les poèmes dans leur contexte tragique. Le deuxième chant est consacré à un peintre, Pierre Lachkar, que nous connaissons bien ici à Toulouse et à l'espace du judaïsme, dont les œuvres sont imprégnées de la mystique juive. Et enfin, un troisième chant d'espérance, le chant de la terre promise, comme vous disiez, Pierre. C'est le récit d'un voyage en Israël que vous avez fait avec le volontariat civil il y a 16 ans. Et qui demeure sous sa forme littéraire un véritable voyage initiatique. Ces trois chants, qui vont des ténèbres à la lumière, sont un acte d'amitié profonde pour le peuple juif. Alors, il y a donc ce livre, également un site internet dont Gilles Presnitzer s'occupe.
Avec
Pierre Léoutre. Gilles, ce site s'appelle Esprit Nomade.
Oui, Esprit Nomade.
Au pluriel. Vous voulez bien nous en parler ?
Oh, très rapidement, parce que je voudrais quand même faire entendre, surtout la voix de Mordechai Gebertich. C'est un site dont la partie littérature a une ambition qui est de faire redécouvrir un peu pas mal d'écrivains et de poètes juifs qui sont tombés un peu dans la déshérence et qui, en tout cas, ne sont pas traduits en français. Il y a des gens comme Appelfeld, Samuel Agnon, Yehuda Mirchai, Rosa Slender, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, bien sûr, qui est plus connu, et Israël Eliras, Benjamin Fondane, Voronka, etc., Jabez. Donc, il y a une volonté dans ce site de faire ressurgir une part de ces écrivains qui ont écrit juste avant la Shoah et ceux qui ont survécu, qui ont écrit à partir des années 50 avec cette immense interrogation: comment peut-on écrire après la Shoah? Donc ce site s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la littérature du désastre.
Alors peut-être nous écoutons maintenant ce chant de Mordechai Gebertich.
Oui, il faudra en dire deux mots. Quelle fut la... On peut... Écoutons-le brutalement.
On l'écoute.
Ensuite, on verra...
Et puis, on en parle.
Voilà.
Thank you. Lars brennt, Brida Lars brennt, oi unser Uhrenstädtnebel brennt. Beise Winden mit ihr Gusen reißen, brechen und sie blusen, starker noch wie Beise Flammen, unser Rufen brennt. Nun ihr steht und ihr kickt, dass euch sich nicht verregt hält. Brennt, Bridalach, se brennt, oi unser Uhrenstädtnebel brennt. Es haben schon die Feuerzungen das ganze Städtler reingeschlungen und die Beise Winden huschen, unser Städtel brennt. Nun ihr steht und ihr kickt, dass euch sich mit verlegt hält. Brennt, Bridalach, se brennt, die Hilfe ist nur in euch allein gewendet. Ob du Städtli sagt teier, nimm die Kehn, lässt du's Feier, lässt mit euer Regenblut, beweist, dass ihr du's kennt. Städtli, de Brüder, has euch sich mit verlegte Hände.
Nous écoutions Sarah Gorby qui chantait ce chant de Mordechai Gebertich, Es brennt. Qui était Mordechai Gebertich, Gilles?
Avant d'en parler, le mieux c'est de traduire ce que vous venez d'entendre, qui était chanté par la grande Sarah. Parce que ce chant qui a été composé en 38, hein,
1938.
Oui, c'était suite au pogrom de Psytyk, est devenu le chant emblématique de tout le ghetto de Cracovie et même de tous les juifs du monde entier. Il n'aura été publié qu'après la mort de Gebertich, mais il aura volé de lèvre en lèvre pendant ce temps. Je voudrais quand même, pour bien vous situer Gebertich, vous le traduire, ce que vous avez entendu. Ça s'appelle « Le village brûle ». Il brûle, mes frères, il brûle. Oi, notre pauvre village brûle, des vents mauvais avec fureur s'élèvent, cassent et dispersent, plus fort encore que les flammes sauvages. Tout autour de nous brûle déjà. Et vous êtes là. Et vous regardez cela, les bras croisés. Et vous êtes là et vous regardez cela. Comment notre village brûle? Il brûle, mes frères, il brûle. Oi, notre pauvre village brûle. Déjà, les langues de feu ont dévoré tout le village. Et les vents mauvais hurlent. Tout le village brûle aux alentours. Et vous êtes là. Et vous regardez cela. Il brûle. Mes frères, ils brûlent. Oi, le moment terrible peut venir. Notre village et nous avec lui partirons en cendres, emportés par les flammes. Il ne restera, comme après un massacre, que des murs ruinés et noircis. Et vous êtes là, et vous regardez cela. Ils brûlent, mes frères, ils brûlent. Oi, notre pauvre et petit village brûle. En vous seul est le secours. Si le village vous est cher, prenez les seaux, éteignez le feu, éteignez-le avec votre propre sang. Prouvez que vous le pouvez. Et vous êtes là, et vous regardez. Ne restez pas frères à regarder les bras croisés. Ne restez pas frères ainsi sans rien faire. Éteignez le feu. Notre village brûle. Voilà, vous avez compris par cette traduction que Gebertich, qui et de Cracovie. De son vrai nom d'ailleurs, il s'appelait Mordechai Bertisch. Il était né le 4 mai 1877 à Cracovie. Il aura passé toute sa vie dans cette ville, un peu dans un village juste à côté après, mais toute sa vie aura été là. Et il est mort abattu d'une balle dans la nuque le 4 juin 1942 par un officier nazi. Ce jour-là, qu'on appelle le jeudi sanglant de Cracovie, fut le jour choisi pour la déportation de tous les juifs du ghetto de Cracovie. Et ce ghetto n'était pas dans le quartier juif de Kazimierzk. Il fallait qu'il n'y ait aucun lien entre les juifs et leur habitat, qu'ils soient coupés du monde et réduits à l'état de bêtes humaines, ou de bêtes tout court. Et le ghetto avait été placé dans d'anciennes usines là-bas, et cerné. Gebirtisch, contrairement à la plupart, refusa de se laisser conduire, car lui savait ce qu'attendaient les juifs là-bas. Ses poèmes avaient été suffisamment prémonitoires. Il sera tué sur place. Sa femme et deux de ses filles seront, elles, assassinées dans le camp de Bethlehem. La troisième, Schifrele, avait déjà été tuée en 1941, donc toute la famille Gebirtisch aurait été exterminée. La chose à savoir, c'est qu'un jour, avant la déportation, c'est-à-dire le 3 juin 1942, Lola, une des filles de Gebirtisch, remit quelques feuilles de poèmes à des amis juifs. Et deux survécurent. Ce sont les poèmes que j'ai traduits ici. Mais il faut savoir que la plupart de l'œuvre de Gebirtisch a disparu. Et le peu qu'on a retrouvé, soit par ses amis juifs là-dessus, soit certains enterrés, parce qu'on a retrouvé beaucoup de poèmes d'autres poète que Gebirtisch, enterré dans le ghetto. Ensuite, les manuscrits furent amenés en Israël. Mais ce qui est curieux, c'est que Gebirtisch n'a été publié en Israël qu'en 1967. Je pense que les États-Unis ont fait un petit effort et depuis plus rien, il est rentré un peu dans cette ombre épaisse provoquée par les cendres de l'Holocauste. C'est donc un destin de toute une famille. Il faut savoir que Gebirtisch était issu d'une famille pauvre. Il ne se considérait absolument pas comme poète. Il était illettré quasiment. Il lisait que les textes sacrés. Il se considérait comme un simple troubadour. Et après avoir terminé sa journée harassante de charpentier, parce qu'il était charpentier quand il pouvait, parce qu'il avait une santé fragile, avait beaucoup de crises cardiaques, il rentrait chez lui, il prenait sa guitare, ou sa flûte, puisqu'il jouait de la flûte et de la guitare, et il écrivait tous les jours. Donc, on peut se comprendre qu'il y a des milliers de textes de Gebirtisch qui auront été faits. Il nous en reste peu. Le peu qui reste, c'est grâce à des interprètes, comme Sarah Gorby, comme Ben Zimet ou d'autres, qu'on connaît au moins, il y a 3 chansons de Gebirtisch qui sont sur des disques. Le reste est perdu. Gebirtisch n'était pas fait pour chanter le désespoir, comme vous l'avez dit, Monique. Il était là, un homme simple, pour chanter le feu qui brûle, pour chanter les joies. Et il faisait généralement lui-même la musique de ses poèmes. Il la faisait en grattant sa guitare et en jouant de la flûte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ses chansons d'un ce qu'on appelle un Brodersinger, c'est-à-dire un des bardes de l'Europe centrale, qui est dans Brodersinger, il y a à la fois également la notion de fraternité. C'est ces chanteurs-là qui écrivaient pour tout un peuple. Et entre les deux guerres mondiales, chaque petit village, chaque ville connaissait par cœur ses chansons. Mais ce qui est curieux, c'était aussi bien le petit peuple, parce qu'il s'adressait au petit peuple, que les lettrés. Et on chantait ces chansons avant, dans les années 35-36, aussi bien en Palestine qu'aux États-Unis. Disons qu'on le chantait partout où là un juif chantait. Bon, après l'Holocauste, ça a été aussi l'Holocauste de la langue yiddish. Et donc, évidemment, tout ce qui est des textes de Gebirtisch est passé un peu dans la suie noire du temps. Ce que vous avez entendu, c'est-à-dire Alice Brandt, est devenu un chant quasiment national pour réécrire l'histoire en Israël et autres où on n'aimait pas les gens qui ne se battaient pas les armes à la main. On a préféré le chant des partisans. Mais il faut savoir qu'à Cracovie, on n'a pas chanté le chant des partisans. Les jeunes allaient se faire tuer au son et avec les paroles que vous avez entendues. C'était l'hymne des combattants. Gebirtich aura connu la vie du ghetto très tôt, en 39, puisque un des premiers ghettos qui auront été installés sur la terre polonaise, extrêmement complice et propice au meurtre. Et d'ailleurs, Gebirtich aura des chants de rage très forts contre la totale collaboration des Polonais avec les Allemands. Donc, il aura écrit pas mal de poèmes avant, bien sûr, mais il aura vécu d'avril 42 à juin 42 dans le ghetto, pris comme un rat dans le ghetto, et décrivait jour à jour les moments terribles. Donc, finalement, le seul journal de bord que l'on ait du ghetto de Cracovie, c'est Mordechai Gebirtich qui l'a fait. Donc, si vous voulez savoir la véritable identité de ce ghetto, qui s'est révolté avant le ghetto de Varsovie, mais sa révolte n'a pas eu lieu dans le camp, puisque l'espace militaire, disons, était trop court. Donc, les gens, les résistants de Cracovie, ont préféré lutter hors du camp et abattre les officiers nazis. Et permettre à des centaines de juifs de s'échapper du ghetto vers les forêts qui étaient toutes proches. Et donc, Mordechai Gebirtich, indépendamment du fait qu'il soit un poète d'une clarté, d'une simplicité merveilleuse, fut aussi le témoin et le transcripteur, le scribe de ces jours terribles. Comme il a été dit, il jouait de la flûte de berger, je vous l'ai dit, du flûteau, de la guitare, mais il jouait surtout de la langue des hommes. Et jusqu'à son dernier souffle, il aura chanté ses chansons, qui étaient chantées, comme je vous l'ai dit, dans toutes les rues juives. On pourrait dire de Gebirtich qu'il fut le véritable troubadour du peuple juif, plus que d'autres, parce qu'il y a Yitzhak Menger, il y en a bien d'autres, mais cela s'adressait aux lettrés, inclus s'adressait au peuple. Et donc, simplement ce que je voulais vous dire, que maintenant, comprendre l'impact de ce petit charpentier misérable vivant dans son coin, faisant les chaussures et le soir faisant des chansons, cet impact-là était plus fort que tous les autres poètes de son temps sur le peuple juif. Il écrivait simplement, il écrivait pour que cela passe de bouche en bouche, d'oreille en oreille. Ses poèmes, d'ailleurs, à cette époque, il était extrêmement connu. C'était donné dans les théâtres, les salles de concert, toutes les radios leur transmettaient. C'était dans les réunions, les chanteurs de rue. Et donc, tous les juifs le chantaient. Donc, voilà un peu qui est Mordechai Gebirtich. Et la chose émouvante à savoir, c'est que devant l'anéantissement, tout un peuple qui était au bord du néant, qui savait qu'il allait disparaître, s'était totalement réfugié dans les paroles d'un poète qui s'appelait Mordechai Gebirtich.
Je vous remercie. Je voudrais vous demander, par rapport à ce débat impulsé par Adorno, est-ce qu'on peut écrire après la Shoah? Est-ce qu'on peut écrire encore des poèmes? Puisqu'il y a eu, tant de poètes pendant la Shoah, est-ce que c'est pas vraiment un faux problème que nous proposait Adorno? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une transformation de ce qu'on entend par poésie, dans la mesure où il y a eu pendant la Shoah, dans les ghettos et aussi dans les camps, une poésie de très grande et extraordinaire, celle que dévoile aussi Rachel Ertel dans son beau livre, dans la langue de personne, poésie yiddish de l'anéantissement?
La meilleure réponse à Théodore Adorno, qui était plutôt théoricien froid, il était l'élève de Schoenberg, Adorno, il était musicien, c'est Paul Celan qui l'a apporté. Paul Celan était obsédé par cette question, comme bien d'autres. Mais on peut remarquer que, vers les années 50, toute une floraison de poètes ont écrit Rose Auslander, Ingeborg Bachmann, Else Lasker-Schüler et bien d'autres. Donc, je pense que Adorno était totalement un faux problème. D'ailleurs, c'est un juif extrêmement assimilé qui ne comprenait pas pour lui la signification réelle de l'Holocauste. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de poèmes écrits dans les années 30 par des gens qui sont morts ensuite à Auschwitz. Le cas le plus exemplaire s'appelle Gertrude Colmar, totalement inconnue en France d'ailleurs. Et comme vous l'avez cité, il faut savoir que dans chaque ghetto, on écrivait. Par exemple, dans le ghetto de Tchernovitch, où vivaient ensemble Ostlander, Appelfeld et Paul Celan, qui étaient dans le même ghetto, on risquait sa vie, on traversait le village, il y avait des miliciens juifs qui faisaient la police pour les nazis, il ne faut pas l'oublier, et les nazis eux-mêmes, on risquait sa vie pour aller lire les poèmes, pour aller chez Paul Celan, lire des poèmes pour que Paul Celan vienne chez Ostlander. Et à la fin du ghetto de Varsovie, quelques jours avant, il y avait une centaine de théâtres. Donc la parole n'a jamais été obscurcie. Même si l'amertume était forte, l'espoir était encore plus fort.
Nous écoutons maintenant un chant de Gebertisch Jankele, chanté par Ben Simet. De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'une petite mélodie d'une mère juive en son enfant qui voit déjà sa vie adulte. Ça fait partie de toute une tradition des chants juifs de cette époque, il y en a beaucoup, de berceuses.
Schlofsche mir schein Jankele, mein Scheiner, die Eugelech, die Schwarzinke macht sie. Ein Jingele, was hat schon alles ein Loch? Miss nach die Mamme singen, heil Juliu. A Jingele, was hat schon alles ein Loch? Miss nach die Mamme singen, heil Juliu. A Jingele, was hat schon alles ein Loch? Und wird mit dem Masel bald in Cheder gein und lernen wird der Chimisch und Gemurre. Soll weinen, wenn die Mama wiegt im Ein und lernen wird der Chimisch und Gemurre. Soll weinen, wenn die Mama wiegt im Ein. A Jingele, was lernen wird gemurre, hat steigt der Tate quält den Herz sich zieh. A Jingele, was wächst der Tal mit Huchen, lasst ganze Nacht der Mama nicht in Rieh. A Jingele, was wächst der Tal mit Huchen, los ganze Nacht der Mamme nicht in Rieh. Ja, da dei, 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 da 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 da. Die schlufsche mir schon Jankele, mein Scheiner, die Eugelech, die Schwarzinke macht sie. Ein Jingele, was hat schon alles ein Loch, mis nach die Mamme singen, ein Juliu. A Jingele, was hat schon alle sein Lös, mis noch die Mamme singen, ei Juliu.
Endors-toi donc, Jankele, mon beau petit homme. Tes yeux, tes petits yeux noirs, ferme-les. Un petit garçon qui déjà a toutes ses dents, à qui sa mère doit encore chanter, ei Luli. Un petit garçon qui déjà a toutes ses dents et qui bientôt ira à l'école et qui étudiera la Bible et le Talmud. Un petit garçon qui éclore vite en grand érudit. Ne peut-il pas laisser sa mère en paix toutes les nuits? Un petit garçon qui éclore vite en grand érudit. et qui, en même temps, devient un très bon commerçant. Un petit garçon, un marié beau et intelligent, et qui est trempé comme un ruisseau. Allons, endors-toi, mon mari est beau et intelligent. En attendant, tu reposes auprès de moi dans ton berceau. Tant de larmes de mer, tu m'arracheras avant que tu ne deviennes un homme. Endors-toi donc. C'était Yankele de Mordechai Gebirtich. Et nous avons parlé, Gilles Presnitzer nous a parlé de la vie de Mordechai Gebirtich, particulièrement au ghetto de Cracovie. Et je voudrais maintenant m'adresser à Pierre Léoutre qui a écrit une étude sur le ghetto de Cracovie. Pierre, vous voulez bien nous dire quelque chose sur le ghetto ?
Mais juste pour signaler que cette analyse historique donc, qui entoure les textes et les traductions de Gebirtich sont une étude originale en langue française sur ce sujet, et qui fait l'originalité donc, de cette publication.
C'est une publication absolument unique parce qu'il n'y a pas eu d'étude sur le ghetto de Cracovie.
Voilà, c'est ça.
Alors nous vous remercions beaucoup pour ce travail historique fondamental et nous le lirons bientôt. Et alors maintenant, je m'adresse à nouveau à Gilles. Mmh. Vous allez nous lire des poèmes de Gebirtich.
Oui. Je voulais juste dire une chose. Le ghetto de Cracovie n'est pas resté dans la mémoire. D'une part parce qu'Israël n'aimait, comme je disais, que les phases glorieuses. Et donc, personne n'a travaillé, en fait, à part le film assez bizarre de Spielberg qui s'appelle Le Pianiste. Mais l'intérêt de ce film, c'est que ça a donné un musée, pas sur le ghetto, mais à Kazimierz, qui était le quartier juif. Il y a un très beau musée fait avec l'argent de Spielberg. Bon, je vais maintenant essayer de vous lire quelques textes qui vous montreront les chants de tendresse et de rage qu'avait finalement Gebirtich. Le premier s'appelle Veille du jour du grand pardon. Veille du jour du grand pardon, mornes sont les rues. Le soleil, rouge de honte ou même de colère, se couche quelque part. Le ciel à l'ouest, en flamme. C'est la veille du jour de grand pardon. Après les prières du crépuscule, et ici les lieux de prière sont comme des prisons, les verrous sur leurs portes, comme des chaînes faites de mains d'hommes. Veille du jour du grand pardon, avec à l'ouest presque la nuit. Les lignes juives sont gardées par un ennemi. Comme des enfants déshérités, ils se tiennent étonnés. Nous étions habitués à entendre les chants de la synagogue, mais pas les piétinements des bottes des soldats, les cliquetis des fusils ou les hurlements des chiens perdus. Veille du jour du grand pardon. Combien de temps, combien de temps ? Dans les rues juives jadis, un léger mouvement, une hâte de tous les recoins. Un peuple marche pour prier. Tous les bancs, toutes les chaises sont pleines. Pour la première fois depuis des centaines d'années, un tel outrage, une telle honte. Veille du jour du grand pardon. Seule une poignée nue, fermée dans la pièce comme s'il y avait si longtemps, comme il y a si longtemps en Espagne, recouverte dans leur châle de prière, avec dehors quelqu'un montant la garde. Mais la lueur du chandelier sacré, placé sur l'armoire, une voix que l'on entend chanter avec une mélodie si triste, le vieux chant fondateur. Oh, hélas, hélas, Kol Nidrei, écrit le 25 novembre 1939 à Cracovie, puisque, comme Bruno Schulz, Gebirtich a l'originalité de n'être jamais sorti de sa ville. Instant de désespoir, déjà une année de guerre. Si terrible, si monstrueuse, comment pouvons-nous survivre? Comment pouvons-nous endurer? Une année de persécution, de détresse et de douleur. Qu'est-il advenu de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Nos prières sont dévastées. Elles n'auront pas atteint la maison de Dieu. Les cieux sont fermés à double tour, comme le cœur du monde. Les cieux sont fermés à double tour et terriblement sombres. Les doutes commencent à ronger hors de mon cœur. Mes doutes commencent à résoudre le mystère. Il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de Dieu. Pas un petit morceau de consolation, seulement de la peine et de la douleur. Qu'adviendra-t-il de nous ? Comment tout cela se terminera-t-il ? Écrit à Cracovie le 2 octobre 1940. Là, un texte qui montre un peu la haine de Gibirtich sur la collaboration active des Polonais. C'est un chant sur sa ville qui s'appelle « Porte-toi bien, Cracovie ». Porte-toi bien, Cracovie, porte-toi bien. Le carrosse maîtrisé attend devant ma porte. Mes ennemis sauvages me conduisent impitoyablement loin de toi comme l'on amène un chien. Porte-toi bien, Cracovie. Aujourd'hui, sans doute, pour la dernière fois, je vois tout ce qui m'est cher. Sur la tombe de ma mère, j'ai vidé un hurlant mon cœur. Trop dur de se séparer d'elle. J'ai asséché mes yeux jusqu'à la dernière larme tombée. J'ai arrosé avec elle la tombe froide de mon père, la tombe de mon grand-père. Je n'ai jamais pu la retrouver. Sa pierre tombale était transformée en poussière. Porte-toi bien, Cracovie. Ta terre est sainte. Père, mère y reposent. Me coucher contre eux n'a pas de sens pour moi. Ma tombe m'attend très loin d'ici. Porte-toi bien, Cracovie. Porte-toi bien. Le carrosse maîtrisé attend devant ma porte. Mes ennemis sauvages me conduisent impitoyablement loin de toi, comme l'on amène un chien. Cracovie, 24 octobre 40. Un poème, parce qu'en même temps qu'il fustigeait la collaboration des Polonais, Gibirtich en voulait beaucoup à l'aveuglement des Juifs qui ne comprenaient pas ce qui s'y passait. Ce poème s'appelle « C'est bien ». C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Juifs hurlent « C'est bien ». L'ennemi sauvage se déplace rapidement, sans pitié. Là où il parvient, la vie est totalement ruinée. Et les Juifs hurlent « C'est bien ». Et les Juifs sourient « C'est bien ». Les choses sont bien, sont bonnes. Elles ne pourraient être mieux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Juifs hurlent « C'est bien ». L'ennemi s'avance, infâme et sanguinaire, pays après pays, et les Juifs hurlent « C'est bien !» Et les Juifs sourient « C'est bien !» Les choses sont bien, sont bonnes. Qui nous bouffe encore plus ?« C'est bien, c'est bien, c'est bien !» Les Juifs hurlent « C'est bien !» L'ennemi dévore les terres, saisit encore plus et plus. Son estomac est plein, il ne peut plus rien avaler. Et les Juifs hurlent « C'est bien !» Et les Juifs sourient « C'est bien !» Les choses sont bien, sont bonnes. Son estomac est maintenant congestionné. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Juifs hurlent. C'est bien. Maintenant, l'ennemi occupe la moitié de l'Europe. Et en veut encore plus, bien que son estomac soit prêt à exploser. C'est bien, c'est bien. Les Juifs hurlent. C'est bien. Les Juifs sont... Les choses sont bien, sont bonnes. Il ne peut plus prendre une seule bouchée. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Juifs hurlent. C'est bien. À force de s'emparer témérairement de tout, il est usé et malade. Il est malade d'avoir trop mangé. Il ne peut éliminer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les Juifs hurlent. C'est bien. Les choses sont bien. Sont bonnes. Sa fin approche. Amen. Ce poème a été écrit un mois avant l'exécution de Gibirtich, c'est-à-dire mai 42. Si j'ai encore le temps...
Oui.
S'appelle Cela blesse. Cela blesse. Cela blesse terriblement. Pas tellement la haine brûlante de l'ennemi, pas même le souffle de la main folle de l'ennemi, pas l'étoile de David élimée sur le bas. Oh honte, pour tant de générations, oh honte, cela sera pareil pour elle. Cela blesse. Cela blesse terriblement, quand ce n'est pas un ennemi étranger, mais eux, les fils et les filles de Pologne qui feront honte un jour à leur pays, mais qui maintenant gloussent et s'étranglent de rire, regardant en bas vers la rue comment nos ennemis commorent et déculisent les Juifs, frappent et tourmentent le vieux, les dépouillent impunis, coupant la barbe des Juifs, comme si cela était des tranches de viande. Et eux, qui comme nous sont dépossédés de leur pays, qui comme nous sentent la main folle de l'ennemi, comment peuvent-ils chahuter, rire, se réjouir en de tels moments ? Quand la fierté et l'honneur de la Pologne sont en bannis, quand l'aigle blanc est tiré vers le sol entre les barbes, les gris et noirs cheveux des barbes juives, n'y aura-t-il pas une honte éternelle pour eux tous ? Ce n'est pas leur propre visage ainsi ressemblant. Cela blesse. Oh, terriblement cela blesse. écrit en février 40. Juste une chose à dire, c'est que le ghetto de Cracovie avait, en bas, il y avait une sorte de passerelle pour que les bons Aryens, les bons Polonais puissent passer, et de là, comme dans un zoo, ils regardaient les Juifs se faire soit abattre, soit là-dessus. Ils n'avaient même pas la pitié de jeter des cacahuètes. Celui s'appelle « Jour de punition ». Je vous le dis, mes frères, souvenez-vous de mes paroles de réconfort et de consolation. Cela va venir. Entendez-vous ? Un jour va naître qui nous apportera notre vengeance. Vengeance pour nos souffrances et nos douleurs, pour tout le sang répandu par nos ennemis. Vengeance pour celui dont il reste, ne reste aucun homme pour savoir un jour. Vengeance pour ces actions que même Sodome ne connut pas. Vengeance pour ses mères, ses orphelins, ses veuves. Toute la terre va hurler vengeance pour le sang de millions de victimes. L'homme va se réveiller, aucun doute là-dessus. Il verra clairement l'horreur de la guerre. Comme un ancien prophète, il clamera « Vengeance et punition !» Je crois et j'espère que ce jour viendra. Frère, je peux voir de loin son arrivée. Le jour va nous apporter la colombe de Noé, heureuse marée des temps de paix. Écrit en 42. Je voulais donc terminer par un petit chant d'espoir que portait en lui Guy Birtich.
C'est déjà œuvre de justice que vous puissiez lire aujourd'hui ce texte que vous-même, Gilles, avez traduit du yiddish.
Du yiddish, oui.
Voilà, et qui paraissent dans le livre de Pierre Léautre, dont nous parlons pendant cette émission, chant pour le peuple juif, chant au pluriel, qui paraît ces jours-ci aux éditions Les Deux Encres. Nous écoutons, je crois, une Drei Tochter, trois sœurs.
C'est l'autre aspect de Guy Birtich. Guy Birtich, c'est un homme du peuple, donc il chantait la vie quotidienne, la vie des marchands de poissons, la vie des vendeurs d'eau, etc. Et là, il parle d'un thème immémorial dans le chant juif. C'est comment un foyer est dévasté par le mariage des filles, qui coûte très cher, et comment un père qui a trois filles s'empresse de vouloir les marier comme afin quand la dernière est partie se sent étrangement et totalement seul chez lui.
Et Moshe Leiser
est un chanteur qui est très controversé dans les milieux juifs. C'est un metteur en scène remarquable qui a fait deux disques sur les chants yiddish. Il l'a réappris avec plein de fautes, plein de lapsus peut-être, donc tout le monde lui est tombé dessus à bras raccourcis. Mais il était porteur par rapport à tous les autres, que je ne citerai pas là, d'une authenticité si belle que c'est peut-être les plus beaux disques qui restent. Cela blesse terriblement, pas tellement la haine brûlante de l'ennemi, pas même le souffle de la main folle de l'ennemi, pas l'étoile de David limée sur le bas, oh honte! Pour tant de générations, oh honte, cela sera pareil pour elle. Cela blesse. Cela blesse terriblement, quand ce n'est pas un ennemi étranger, mais eux, les fils et les filles de Pologne, qui feront honte un jour à leur pays, mais qui maintenant gloussent et s'étranglent de rire, regardant en bas vers la rue, comment nos ennemis commorent et ridiculisent les Juifs, frappent et tourmentent le vieux, les dépouillent impunis, coupant la barbe des Juifs, comme si cela était des tranches de viande. Et eux, qui comme nous sont dépossédés de leur pays, qui comme nous sentent la main folle de l'ennemi, comment peuvent-ils chahuter, rire, se réjouir en de tels moments? Quand la fierté et l'honneur de la Pologne sont en bannis, quand l'aigle blanc est tiré vers le sol entre les barbes, les gris et noirs cheveux des barbes juives, n'y aura-t-il pas une honte éternelle pour eux tous? Ce n'est pas leur propre visage ainsi ressemblant. Cela blesse. Oh, terriblement cela blesse. Écrit en février 40. Juste une chose à dire, c'est que le ghetto de Cracovie avait, en bas, il y avait une sorte de passerelle pour que les bons Aryens, les bons Polonais puissent passer. Et de là, comme dans un zoo, ils regardaient les Juifs se faire soit abattre, soit là-dessus. Ils n'avaient même pas la pitié de jeter des cacahuètes. Celui s'appelle Jour de punition. Je vous le dis, mes frères. Souvenez-vous de mes paroles de réconfort et de consolation. Cela va venir. Entendez-vous ? Un jour va naître qui nous apportera notre vengeance. Vengeance pour nos souffrances et nos douleurs, pour tout le sang répandu par nos ennemis. Vengeance pour celui dont il reste, ne reste aucun homme pour savoir un jour. Vengeance pour ces actions que même Sodome ne connut pas. Vengeance pour ses mères, ses orphelins, ses veuves. Toute la terre va hurler vengeance pour le sang de millions de victimes. L'homme va se réveiller, aucun doute là-dessus. Il verra clairement l'horreur de la guerre. Comme un ancien prophète, il clamera « Vengeance et punition !» Je crois et j'espère que ce jour viendra. Frère, je peux voir de loin son arrivée. Le jour va nous apporter la colombe de Noé, heureuse marée des temps de paix. Écrit en 42. Je voulais donc terminer par un petit chant d'espoir que portait en lui Guy Birtich.
C'est déjà œuvre de justice que vous puissiez lire aujourd'hui ce texte que vous-même, Gilles, avait traduit du yiddish.
Du yiddish, oui.
Voilà, et qui paraissent dans le livre de Pierre Léautre, dont nous parlons pendant cette émission, chant pour le peuple juif, chant au pluriel, qui paraît ces jours-ci aux éditions Les Deux Encres. Nous écoutons, je crois, une Drei Tochter, trois sœurs.
C'est l'autre aspect de Guy Birtich. Guy Birtich, c'est un homme du peuple, donc il chantait la vie quotidienne, la vie des marchands de poissons, la vie des vendeurs d'eau, etc. Et là, il parle d'un thème immémorial dans le chant juif. C'est comment un foyer est dévasté par le mariage des filles, qui coûte très cher, et comment un père qui a trois filles s'empresse de vouloir les marier, comme afin quand la dernière est partie, se sent étrangement et totalement seul chez lui.
Et Moshe Leiser
est un chanteur qui est très controversé dans les milieux juifs. C'est un metteur en scène remarquable qui a fait deux disques sur les chants yiddish. Il l'a réappris, il l'a réappris avec plein de fautes, plein de lapsus peut-être, donc tout le monde lui est tombé dessus à bras raccourcis. Mais il était porteur par rapport à tous les autres, que je ne citerai pas là, d'une authenticité si belle que c'est peut-être les plus beaux disques qui restent.
Noch geblieben uns meidlich zwei, wie halt men schön basei. Oi, noch geblieben uns meidlich zwei, wie halt men schön basei. Oi, spiel Kleismäuri, nehm ihr Kleisein, soll die ganze Welt mit uns sich freien. Unser Simche weiß nur ein Gott, und er wus Tochter hot. Oi, unser Simche weiß nur ein Gott, und er wus Tochter hot. Wenn versehn schon das zweite Mädel und getin in weiße Chippe kleiden, will ich trinken und freilich sein auf dem Harzer Stein. Oi, will ich trinken und freilich sein auf dem Harzer Stein. Ui, spiel Kleismäuri, mui heit und schneiden, zweite Mädel gib mir euch in Freiden. Das Mischinikel noch haben wir, wie halt men schön bei ihr. Ui, das Mischinikel noch haben wir, wie halt men schön bei ihr. Ui, spiel Kleismäuri, soll er lebt und euch amol kapzonim. A Kind euch gegeben, Gott in you, a Mädel noch dazu. Oi, a Kind euch gegeben, Gott in you, a Mädel noch dazu. Wenn bei letzten ich will spielen ehren, will ich etwas treurig stein und klären. Das letzte Mädel schon euch weg, wo's noch ist du der Zweck. Euch letzte Mädel schon euch weg, wo's noch ist du der Zweck. Der Fahrspiel Kleismäuri, mein Bad setzt die Kalle, sie's genommen uns die Töchter alle. Schwer gewesen uns die meidlich drei, noch schwerer noch uns sei. Schwer gewesen uns die Meidler drei, und schwerer noch uns sei. Ich spiel Kleismäuri, mein Reis ist drei. Das letzte Bettel wird heute leidig werden. ganze Stiebel, ihr Kleiderschrank, oi wei wie Post und Bank. Das ganze Stiebel, ihr Kleiderschrank, oi wei wie Post und Bank. Da-da-dam, da-da-da-da-dam, da-da-da-da-da-da-dam, di-da-dam, di-da-da-da-dam, di-da-da-dam-da-dam.
Amis auditrices, auditeurs, nous parlons durant cette émission de ce livre qui va paraître ces jours-ci aux éditions Les Deux Encres, un livre de Pierre Léoutre, chant pour le peuple juif, avec les traductions des poèmes de Mordechai Gebertich par Gilles Prasnitzer et que Gilles, ici présent, a lu à l'antenne. Alors je vous rappelle un peu les trois chants qui se trouvent dans ce recueil. Le premier chant, c'est celui donc du ghetto de Cracovie et des poèmes de Mordechai Gebertich. Un deuxième chant, comme dit Pierre Léoutre, c'est le chant des couleurs, un chant qui est consacré au peintre Pierre Lachkar, que nous connaissons bien ici à Toulouse. Et je crois, Pierre, que c'est un dialogue entre vous deux.
Oui, enfin, un dialogue entre nous deux. Également, il y a des illustrations de certains tableaux de Pierre.
Voilà, et nous espérons bien voir prochainement la publication, peut-être avec l'aide de la communauté, pourquoi pas, des œuvres picturales complètes de Pierre Lachkar, qui sont absolument remarquables, et comme vous le dites, imprégnées de la mystique juive. Et le troisième chant, c'est le chant d'espérance, le chant de la terre promise. C'est un voyage que vous avez fait en Israël avec le volontariat civil, donc sous les auspices de l'agence juive, il y a 16 ans, et que vous avez écrit, moi je l'ai lu un peu comme un roman de Joseph Agnon, avec une petite dose de mystère. On a toujours l'impression que quelque chose d'absolument extraordinaire se passe, c'est pas vraiment dit, mais c'est suggéré, on y accède avec un grand degré de subtilité. Voilà. Et vous voulez nous dire quelque chose encore sur ce livre, Pierre ?
Non, mais je voudrais d'abord vous remercier ainsi que la Vive pour d'avoir permis de parler de cet ouvrage qui est très important à mes yeux.
Et qui sera très important pour nous aussi. Et alors, où est-ce que nous allons le trouver ?
Je pense qu'on peut le commander dans toutes les librairies.
Comment on peut le commander dans toutes les librairies ? C'est donc Chant du peuple juif de Pierre Léoutre aux éditions Les Deux Encres. Et de toute façon, il y a des bulletins de souscription qu'on a déjà distribués abondamment à l'espace du judaïsme. Et on peut retrouver ici la référence de ce livre. Je voudrais aussi, avant de conclure cette émission, vous annoncer la parution, mais vous en avez peut-être entendu déjà parler, du livre de Karl Marx, du livre sur Karl Marx, pardon, mais ça fait rien, de Jacques Attali, Karl Marx ou l'esprit du monde, qui est publié aux éditions Fayard, un livre très très intéressant qui nous fait également sortir de la mythologie, comme tout ce qui est juif, disons, c'est chaque fois le geste d'Abraham qui détruit les idoles, et nous rentrons avec la littérature, avec l'écriture, dans ce qu'Emmanuel Lévinas disait de l'existence juive. Être juif, c'est transformer ce qui pourrait être vécu comme une malédiction, transformer cela en exultation. Et alors, chers amis auditrices, auditeurs, nous allons pour terminer cette émission, mais je voudrais d'abord saluer et remercier Gilles Prasnitzer, merci Gilles,
merci.
Et Pierre Léoutre, merci Pierre. Et nous écoutons des chants juifs de Sonia Vider-Atherton. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.